Amis de Radio Occitanie de la poésie, bonsoir. Les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Alors Claude Bretin nous revient de Madagascar. Nous sommes de nouveau dans les studios de la rue d'Assali. Heureux de continuer pour vous cette émission Les poètes depuis maintenant bientôt 37 années. Alors depuis Malherbe, nous dit notre ami Guy Rouquet, qui anime l'atelier imaginaire de Tarbes, depuis Malherbe et Lourdes, Tarbes et Lourdes, nous savons que le poète n'est pas plus utile à l'État qu'un bon joueur de quilles, mais avec d'autres, nous savons aussi, et depuis longtemps, que la poésie est comme le levain dans la pâte, qu'elle est en mesure d'élever le cœur de l'homme et d'infléchir le destin de toute une nation. Voilà ce que nous disait Guy Rouquet dans Ton monde et le mien, 39 poètes contemporains parus à l'atelier imaginaire aux éditions Le Castor Astral. Le poème, nous disait Paul Celan, pense à la rencontre. Cette rencontre, elle va avoir lieu dans quelques secondes avec un poète qui est maintenant familier de nos émissions. Il s'agit de Michel Écart-Elial. Michel, bonsoir.
Oui, bonsoir, Christian.
Merci beaucoup d'être avec nous pour Radio Occitanie, cette
Bien.
émission Les Poètes que tu connais bien. Michel, nous allons parler de ta dernière traduction et de également ta dernière édition aux éditions Le Vent. Mais Michel, tu seras à Toulouse le vendredi 4 octobre, donc demain, à partir de 17h, dans ce bel hôtel d'Assezat qui abrite les Académies savantes de Toulouse et où a lieu, salle Clémence Isaure, un colloque qui est à la fois instauré par l'Académie des Jeux Floraux, mais également Les Gourmets de Lettres, qui est une association qui nous offre à Toulouse un salon du livre. Il s'agit cette fois-ci du 14e salon du livre des Gourmets de Lettres, donc passé donc sous l'égide de l'Académie des Jeux Floraux et en partenariat également avec la Fondation Benberg, qui occupe également l'hôtel d'Assezat, les 4, 5 et 6 octobre 2019, donc dans cet hôtel d'Assezat qui, rappelons-le, est à l'angle de la rue de Metz et à 100 mètres de la place Esquirol. Alors, il y aura pendant ces 3 journées des conférences, un concert, des rencontres avec les auteurs et les éditeurs. Et Michel Écart-Elial sera donc à ce colloque qui est intitulé Aperçu de la poésie des trois rives de la Méditerranée. Michel Écart-Elial va parler de la poésie en Israël. La poésie est une célébration, regard sur la poésie hébraïque contemporaine, tel est le titre de la conférence qu'il donnera donc vendredi à 17h. Et cette conférence sera ensuite suivie, puisqu'il s'agit des Trois Rives, d'une conférence par Abdelmadjid Kawa, qui est sur la poésie en Algérie et dans le Maghreb, et qui a pour titre Poésie algérienne, une insurrection de l'esprit. Et ensuite, Franck Bardou, sur la poésie occitane contemporaine. La poésie occitane contemporaine, le titre, c'est Un combat permanent entre la lumière du dire et les ténèbres de l'oubli. Enfin, nous allons passer sur le versant italien avec Cristina Noacco, la poésie italienne. La poésie, un instrument de connaissance chez Montale et Zanzotto. Et Andrea Genovese va conclure ce colloque avec toujours la poésie italienne, à vol d'oiseau lire la poésie italienne du 19e au 21e siècle. Voilà. Donc vous voyez un colloque extrêmement intéressant à l'hôtel d'Assise. Et puis, comme nous avons d'autres interventions, il y aura le lendemain, samedi 5 octobre, dans la cour Pierre de Gorce, qui est donc la cour de l'hôtel d'Assezat, des lectures poétiques que j'aurai le plaisir d'offrir orchestré avec plusieurs poètes, dont les poètes qui viennent d'être nommés et qui seront au colloque. Et puis, il y a également, je crois, le dimanche, nous intervenons également sur, il y a d'abord au Salon Blanc de 11h30 à 12h45, il y aura un débat sur résistance Toulouse occupée, Toulouse libérée, par Françoise Martin, avec une projection de vidéo. Et puis, dans le Salon Rouge, à 13h30 jusqu'à 14h30, donc c'est un peu de bonheur, la littérature israélienne que devait nous présenter Monique Liss-Cohen, qui était actuellement souffrante. Nous pensons bien à elle et nous espérons la revoir très très prochainement, que j'aurai l'honneur d'animer. Donc, la littérature israélienne. Voilà, donc trois belles journées, un très beau colloque le vendredi, des animations très intéressantes le samedi et le dimanche, et bien entendu tout ce temps des stands de livres, un salon de livres où vous pourrez faire vos emplettes et voir ce qui a été publié dans cette année. Voilà, ne pas oublier donc le 14e Salon du Livre des Gourmets de Lettres, placé sous l'égide de l'Académie des Jeux Floraux, les vendredis 4, samedi 5 et dimanche 6 octobre 2019. Alors, Michel Écart-Élial. Michel Écart-Élial, il est poète, bien sûr, mais il est aussi traducteur de la littérature hébraïque moderne, puisque on lui doit les traductions de David Vogel, de Yehuda Amirai, de Roni Somek, d'Agit Grossman, d'Amir Or et maintenant de Miron Isaacson. Nous allons parler de ce livre avec Michel dans quelques instants, mais je voudrais quand même dire que Michel dirige la revue et la collection Le Vent, L-E-V-A-N-T, Le Vent, cahier de l'espace méditerranéen, qui a été fondé en 1988 à Tel Aviv, là où était Michel Écart-Élial à ce moment-là. Michel Écart-Élial qui est maintenant à Montpellier et dont la vocation est toujours de promouvoir un dialogue pour la paix entre les trois rives de la Méditerranée. Comme publication, les dernières publications personnelles de Michel Écart-Élial sont Exercice de lumière, qui est paru chez Le Vent, aux éditions Le Vent, 2015, L'instant et le poème, toujours aux mêmes éditions, avant, qui est paru en 2009, Sa tête au ciel, toujours chez Le Vent, un autre chez Le Vent, puis Bête, toujours aux mêmes éditions, qui date de 1995, et Au milieu du retour, chez Euromédia 1993 et L'ouverture de la bouche avant, en 1992, il avait publié également chez aux éditions Le Vent. Voilà. Alors, ce dialogue pour la paix entre les trois rives de la Méditerranée, en définitive, c'est un peu le sens de ce colloque du vendredi 4 octobre. Alors, Michel, tu viens de publié dans ces magnifiques éditions Le Vent, hein, c'est toujours, alors, avec, toujours, comment dirais-je, ce sont de véritables livres d'artistes, en définitive, que tu publies, tout est, un soin est apporté à l'impression qui est vraiment remarquable, et il y a également une gravure de Denis Zimmermann, l'œuvre de Denis Zimmermann, qui est artiste humaniste et engagé, qui questionne également le monde contemporain, de projets militants comme la création, le manifeste d'un centre d'art engagé dans un ancien parc industriel, au chantier coopératif sur la mémoire, la démarche de Denis Zimmermann, artistique, dit aussi bien le souci que l'émerveillement du monde et le rôle politique de l'artiste dans la société. Des expositions dont de cet artiste en lien avec ses expérimentations ponctuent son parcours. Il y a de la peinture, de la gravure, des instants. Voilà. Et il y a, évidemment, il illustre la gravure donc, de Denis Zimmermann, illustre ce livre à jour, à jour avec un S, de Miron Isaacson, et que Michel Écart Elial a traduit. Alors, Michel, je vais te passer la parole pour nous parler de Miron Isaacson, nous dire quelle est la place de ce poète, de quelle génération. Il est né en 1956, donc c'est une génération qui n'est pas une génération, comment dirais-je, des années 40, mais juste après, dans une famille pionnière, je crois, d'Israël. Donc, ce qu'il représente dans la poésie hébraïque actuelle. Michel ?
Oui, oui.
Voilà, donc je te demande de bien vouloir nous présenter, donc Miron Isaacson.
Oui, alors Miron Isaacson est un phénomène un peu particulier dans le champ de la poésie israélienne, parce que, c'est paradoxal seulement pour les auditeurs, mais Israël, qu'on imagine un pays de spiritualité, sinon de religion, disons que la poésie est plutôt profane, hein. La littérature va aborder des abords, des domaines profanes, hélas profanes, comme celui de la guerre, comme celui de la réalité difficile, enfin, que connaît un pays en guerre, qui survit bien, mais avec le souci de sa sécurité. Donc Miron vient d'un milieu plutôt, pas dit religieux, le mot est insuffisant, hein, un milieu donc qui est spirituel, animé d'une spiritualité profonde, hein, aussi bien orienté, aussi bien sur le souci enfin de l'homme pour les autres hommes, hein, que pour les valeurs, hein, les valeurs qui conduisent sa vie, que également les tourments que peut connaître la personne humaine dans sa vie la plus intime. Et c'est un peu rare, disons, dans cette poésie où je l'ai suggéré, enfin, le souci est d'aborder le champ le plus immédiat de la réalité. Il y a peu de réflexions qui sont intimes. Là, on a un cas, disons, d'un poète qui s'impose petit à petit pour donner à la poésie une couleur qui n'est propre qu'à lui. Hein. Il n'y a pas vraiment de choses de poésie équivalente, de poète équivalent, sinon, à chercher dans la tradition, peut-être, hein, tradition hébraïque. C'est toujours le défi du traducteur, pour le traducteur, des problèmes non seulement de langue, mais des problèmes de concept, de conceptualisation, de concepts, qui appartiennent à l'ordre spirituel ou religieux, qu'il faut essayer de rendre en français, et qui sont, par ailleurs, ça c'est le défi de corollaire, qui sont utilisés dans des situations plutôt qui relèvent du quotidien. Donc il y a le divin et le quotidien qui sont mis l'un au regard de l'autre, hein, et qui donc nourrissent cette poésie. La poésie de Miron est une poésie qui donne une apparence d'étrangeté, hein, de bizarreté. On se demande pourquoi un poète parle de sa promenade. Dans sa promenade, il parle des gens qu'il croise ou des arbres qu'il trouve sur son chemin. Bizarre également, c'était manière d'envisager de décrire une ville. Hein. On décrit une ville pour, pour l'avoir habité, pour l'avoir se construire. On a ici un exercice étrange, enfin, de déconstruction d'une ville. Comment le poète, le narrateur, je dirais, celui qui raconte cette expérience-là, certes de manière poétique, comment il déconstruit un bâtiment, le bâtiment d'une ville, il déconstruit la chambre, l'une des chambres de cette maison, et au fond de cette chambre, se trouve confronté à l'homme. Il y a cette formule de Miron, cette interrogation de Miron qui est toujours présente. Quel est le miracle de l'homme? Où est le miracle de l'homme? C'est au fond la question, je dirais, métaphysique qu'il pose, hein, de la manière la plus, bon, la moins philosophique et la plus ordinaire. Hein. Je pense qu'elle revêt aussi, bien sûr, une dimension politique. Hein. Bon, ça revient à la question qu'on se pose toujours, qu'est-ce que l'homme, oui, qu'est-ce que l'homme vient faire dans cette déconstruction. Et on aperçoit quand même au bout de quelques poèmes la réponse, si on veut la trouver. L'homme, c'est celui qui cherche la lumière. L'homme est celui qui, dans ce labyrinthe, hein, de la réalité, fut-elle la plus habitée, la plus hospitalière d'un certain côté, c'est l'homme qui cherche, hein, au-delà de, dans le cours de ce labyrinthe, cherche une réponse qui ne pourra pas peut-être trouver dans les signes, hein, dans les signes apparents de l'habitation, dans les signes apparents de la vie. Il doit encore une fois déconstruire, il doit forer le plus profond dans tout ce qu'il voit pour y trouver l'étincelle qui est le prélude à la lumière. C'est-à-dire qu'on a quelque part c'est un peu l'horizon spirituel, sinon religieux ou simplement textuel de Miron et Jackson. C'est comme si il se promenait dans le monde de la Genèse, du récit de la création, dans le premier récit de la Bible, hein, et essayer de voir le moment qui a préludé à la création de la lumière. La lumière, bon, cela dit, il est dans un monde qui est celui du XXIe siècle, un monde de civilisation, d'habitation, un monde, oui, qui est traversé par toutes les activités et enrichi par toutes les activités de l'homme. Il essaye de revenir à un statu quo ante où la lumière se faisait à peine jour, hein, apparaissait à peine, et il essaie de comprendre le mécanisme, le déclic qui va procéder à la création de la lumière. Donc, redécouvrir cette lumière en décapant le monde tel qu'il est pour l'homme d'aujourd'hui, c'est quelque part, c'est essayer de reconnaître l'intention de la création. Quelle est dans la création de la lumière ici, quelle est l'intention qui prélude à cet exercice. Est-il gratuit? Est-il orienté vers une éthique, hein, vers les autres? Voilà, c'est un peu la problématique de Miron et Jackson. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, dans l'univers poétique hébraïque, d'aujourd'hui, à rencontrer de telles initiatives, de telles recherches. Encore une fois, on est plutôt versé dans l'urgence du quotidien, du lendemain.
Alors, il y a une posture un peu de la déconstruction, par exemple une ville désagrégée. hein, pour avoir l'essence de la ville. Ces poèmes, chaque strophe va un peu désagréger la ville pour mieux la saisir, hein, et en définitive, avec cette déconstruction, mieux la reconstruire. Et pour la lumière, c'est donc la même chose que tu viens de nous dire, hein. Il écrit par exemple Lumière tendue, page 31, si tu peux nous lire ce texte peut-être.
31. Lumière tendue. La lumière est tendue. Le froid matinal est arrivé trop tôt pour être le bienvenu. Ancien, il ne possède pas encore la sérénité des vieux qui savent transformer des journées agitées en repos durable. Même la lueur de la lanterne magique n'aveugle pas leur somnolence. Alors, il y a un élément qui, je voudrais ajouter à ce qui vient d'être dit, ce que je dis, et qui est présent dans le titre hébraïque de son nouveau recueil. Ce n'est pas une simple curiosité. Il y a une espèce d'interrogation qu'il posait à lui-même, et je pense à travers lui-même, à travers toute la société contemporaine, la sienne, celle du monde. Comment réveiller en nous quelque chose qui est de l'ordre du doute, hein, et du doute. Voilà, le doute avec toute l'impact que ça a dans le champ français. Là, on pense à Descartes, hein, oui. Le doute. On est dans une société, trivialement parlant, qui ne doute pas, hein, qui est assurée de son assurance, de sa certitude. Hein.
De plus en
On
plus.
Voit tout ce qui se pratique avec ce qu'on appelle le transhumanisme, hein, cette manière d'aller presque au-delà de l'humain pour lui assurer l'assurance, enfin d'être éternel. On a ici, de manière déconstructive, comme tu l'as souligné, on a la nécessité, c'est une nécessité pour lui, d'aller repêcher, si je puis dire, le doute. Hein, le doute qui n'est pas que une manière de douter de nos valeurs et de notre société et de notre suffisance matérielle, mais ce désir d'aller puiser quelque chose qui peut finalement en assurer la pérennité. La pérennité ne vient pas que de la matière, il vient de la manière dont nous approprions spirituellement de la matière, dont nous la prolongeons d'une âme. Et c'est le sens de la poésie de Miron.
Il a une formation de philosophie et une formation juridique.
Oui, donc c'est une formation, oui, double oui. Formation de philosophe et de juriste. Hein. Miron est avocat.
Oui.
La fonction sociale.
Je trouve qu'on sent cette influence dans son œuvre de poète, parce que ce sont des textes qui sont très accessibles. Hein. Il n'y a pas de
oui,
difficultés.
Oui, ils sont accessibles
en
un temps très. On peut remarquer que c'est très ponctuel, très factuel.
Voilà.
Hein. Il
oui.
essaie de. Alors, bon, encore une fois, ça appartient là au défi de la traduction. Un langage très. C'est-à-dire presque juridique, très, très pointu.
Oui.
Hein, les mots sont vraiment exacts dans l'acception que le juriste, oui, veut trouver, donne au mot dans son approche des problèmes. Il est aussi, il y a une autre dimension dans sa vie qu'on voit très peu dans la poésie, on la devine à peine. Hein. Elle est dite de manière, je parlais de métaphysique, de manière philosophique, de manière aussi bien individuelle que collective, le souci de l'autre. Miron est quelqu'un qui est impliqué dans le dialogue, hein, dans le dialogue entre différentes composantes du conflit israélo-arabe. Hein, c'est quelqu'un qui est religieux, hein, dans sa vie je dirais, sa vie citoyenne de tous les jours. Et c'est un homme religieux qui pratique bon, tous les commandements d'un homme religieux, mais et qui participe en même temps aux grandes questions de la société israélienne. Le problème de trouver une solution de paix, notamment à ce conflit. Et ses voyages, aussi bien que ses participations à des festivals, vont dans ce sens-là, vont dans le sens d'accorder à l'artiste aussi ce devoir de rendre des comptes, hein, et de méditer pour le dialogue. Alors l'œuvre est en français, ont été traduites, enfin c'est moi qui ai traduit. J'ai déjà traduit au Levant, hein, c'est-à-dire dans notre collection. En 2015, un premier choix de poèmes de Mironi Saxon qui s'appelait L'audace du jour, où on retrouve entre À jour aujourd'hui et L'audace du jour de l'époque, on retrouve ce fil du jour. Alors, et on mesure d'ailleurs la méthode, hein, sinon la progression de la poésie. Dans L'audace du jour, le jour est donné, il faut le découvrir avec quelques audaces, hein. Ce n'est pas le jour qui comporte ses parts, ses molécules de ténèbres aussi. Les ajours, ce sont, comme tu le sais, ces espèces d'effractions dans une structure, hein, effractions dans une structure architecturale, ces instants de lumière que l'on peut découvrir, pour qui sait les découvrir. Hein, donc il y a un effort qui va au-delà du don de la lumière. La lumière n'est pas donnée. Il faut imaginer l'horizon, disons, l'horizon géographique du poète. On est dans un pays où il fait chaud, où il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup de lumière. Hein. Et nous avons, comme tu le sais, Christian, si tu es venu, rappelle-toi, à Bercheva, nous avons une structure de béton, une chape de béton qui recouvre les hommes, oui, pour les protéger en quelque sorte de la lumière, pour les abriter. Et là, on a quelqu'un qui cherche dans cette structure de béton, il cherche les affleurements, il cherche les effractions, les perfis, oui, de lumière. Il est guette. Il y trouve des sortes de guetteurs, des guetteurs. Un petit peu, je pense pas l'avoir cité, au fameux verset du prophète qui dit, je crois que c'est Isaïe, guetteur, que cherches-tu dans la nuit? Ben, je cherche la fin de la nuit, je cherche le jour. Et voilà, le jour, étant entendu que ce jour, il est donné, il est évident qu'il est de monde. Sans jour, il n'y a pas de monde pour l'homme. Faut-il encore penser à sa genèse, hein, le suivre dans ses pérégrinations. Le jour est finalement peut-être plus long que la nuit, et peut-être aussi bien dans la nuit, comme le voyaient un petit peu les mystiques espagnols, oui. La nuit est lumineuse, ça peut être lumineuse, ça peut être habité par le jour.
Alors, il y a un texte qui rassemble un peu ce que tu viens de dire, c'est-à-dire cette rencontre aussi qu'il cherche de l'autre, mais cette interrogation aussi sur le lieu. C'est le texte L'œil est revenu à moi, ce poème L'œil est revenu à moi, qui est page 12. Est-ce que tu pourrais nous le lire, s'il
Oui,
te
bien
plaît?
sûr. L'œil est revenu à moi. Où est le miracle de l'homme? Là où l'œil s'est détourné de moi pour regarder en votre visage. Et revenir à moi sur le lit de douleur, de toutes les têtes glabres, il a choisi la mienne, soigneusement trouée, pour la scruter dedans à nouveau. Elle était moins tendue et précise. Et lui, affaibli par le chemin incertain, au bord de la route principale qui me ramenait à mon enfance. Je lui dis, regardons les apparences, laisse-moi décider seul où est le miracle de l'homme. Est-ce le lit où je suis couché, ou bien le lieu qui m'oblige à décider? Effectivement, c'est un poème qui est central, hein, où la question posée par Miron dans sa poésie est centrale.
Et
où est,
le trou aussi,
les choses intéressantes. Est-ce dans l'apparition des choses, hein, telles qu'on peut les voir, ou bien là où on peut, où les choses se creusent, hein. Et là, au fond, il a, dans cette espèce de portrait de l'homme et d'autoportrait, on voit un homme qui se creuse. Une espèce de... Moi, j'ai parlé d'anamnèse, hein, à propos de ces approches. L'anamnèse, c'est le processus par lequel, disons, une activité psychologique, mentale, hein, le fait souvent que nous... à laquelle nous astreint le thérapeute, hein, c'est le fait de revenir par la mémoire à des lieux antérieurs. Hein, et de faire à partir de ce lieu antérieur qui est trouvé, qui est deviné, qui est posé, ben, de dérouler le fil de la mémoire. Hein. Au fond, on parlait tout à l'heure de déconstruction. Ici, il y a un corollaire mental qui, dans le domaine mental, qui est tout à fait... significatif dans la poésie de Miron. Revenir, et lui, ce point d'origine à partir duquel on redéroule le fil de notre vie, c'est celui de l'enfance. Alors bon, la poésie est riche de visions d'expériences, d'expériences semblables. On pense bien sûr à... On pense à Baudelaire, on pense à Rimbaud dans la poésie française, hein, le fameux vers paradis des amours enfantines. Là, disons qu'il ne s'agit pas de... Oui, une histoire de paradis, on peut imaginer que c'est un paradis. Je ne sais pas si c'est vert, dans la couleur locale du lieu, mais il s'agit d'un point de recentrage, hein, du monde. Il faut revenir à l'enfance. Et on a souvent aussi à côté de l'enfance l'image de l'homme malade, hein, l'homme couché. Alors, est-ce à dire qu'il y a une attitude un peu morbide par rapport aux vicissitudes de la vie humaine? Je ne pense pas. Je pense que l'homme couché, on peut le lier à cela, à cette attitude couchée, bien sûr, le sommeil, le rêve, hein, tout ce que la psychanalyse peut en dire. Cette attitude couchée est propice à l'éveil d'une conscience qui va, d'une conscience profonde, une conscience qui va vers la profondeur. Profondeur de la vie, puisqu'on n'est pas, on est, être couché, c'est le passif, être dans une attitude de disons détendu. Alors, à opposer, Christian, on a parlé auparavant de la lumière tendue. Hein.
Oui.
Autant la lumière est tendue dans le sens presque moderne, le stress, hein, elle est tendue vers des réalisations très, très concrètes, très ponctuelles, très, très vitales, hein, très urgentes. Hein. L'attitude presque inverse serait, l'approche presque inverse serait celle de la détente, hein, dont le fait d'être couché, et de se laisser aller, de de lâcher prise, de se laisser aller, non pas à d'autres choses, mais simplement, mais à des choses que nous avons, dans le mouvement et la marche, nous avions oubliées. On remonte un peu l'horloge du temps. Alors, pour un poète israélien, c'est le point de départ, hein, je dis combien la situation de Mirone est un peu atypique par rapport à d'autres poètes israéliens. C'est un petit peu, effectivement, un petit peu à la fois étrange pour n'importe quel acteur, je crois, et en même temps, à la limite du compréhensible pour un lecteur israélien, je dirais, qui davantage, je pense, attiré par la fureur et le bruit, si je puis dire, hein. Oui. Donc qui celle de la réalité, qui celle de la réalité quotidienne. Alors, on revient à la formation Miron, philosophe et religieux, je dirais plutôt spirituel. Il y a beaucoup de spiritualité qui couvre dans ces mots de juriste. Hein. Il engage un langage exact, juriste, hein, où on dit où sont les choses, où on pose la question où sont les choses. Hein. On essaie de définir, de cerner les considérants d'une situation ou d'une déclaration. Le spirituel va beaucoup plus loin, il va à l'embouchure des terres et des fleuves de la vie.
C'est une poésie, donc une poésie, on l'a bien compris, qui est une poésie essentiellement de spiritualité, mais il y a aussi un côté métaphysique, presque ésotérique. Je pense par exemple à ce poème Cercle de la page 7, si tu veux bien nous le lire.
Oui, alors tu es tombé dessus sur un poème qui, bon, il n'y a pas de notes, hein. Parfois il faudrait des notes, bon, quand on publie des poèmes, j'aime pas tellement mettre des notes en bas de page, hein. Il faudrait peut-être un petit annexe avec des notes, des observations sur certains poèmes notamment. Et ce poème mériterait certainement une note. Elle parle au fond d'une leçon de vie. Et elle fait allusion à des textes du Talmud, à des textes, à des sources talmudiques, hein, dans le deuxième grand texte hébraïque, enfin juif, je dirais, puisque le Talmud est écrit en araméen aussi, le Talmud, où un sage, hein, du Talmud, qui s'appelle Roni, il s'appelle, et qu'on surnomme le cercleur, hein, c'est comme ça qu'on le surnomme dans l'histoire, dans les commentaires, le cercleur, c'est celui qui fait des cercles. Alors, ce personnage, le sage du Talmud, faisait des cercles, notamment pour faire la prière de la pluie. Il appelait la pluie, et pour appeler la pluie, il traçait un cercle autour de lui, hein, de son corps, et invoquait le ciel. Notre vie est un cercle, mais nous arpentons une plaine, dans la course en tête, son temps, lui, sous une autre planète. Nous vivons par petites gouttes, nous sombrons dans le grand océan, interrogeant le matin qui sait nager, même si la nuit, une femme est semence, et le présent, une pluie d'amour. Un coup de vent abandonne la direction où il est né, une massaille à toute volée, paroles ou jalousies sans raison frappent des étrangers dans la rue. Je value mon visage à son âge, mais mes cheveux n'ont pas d'histoire. Leur territoire est mon corps. Alors, ce qui est intéressant, au-delà de ce que nous venons de dire, hein, sur cette leçon de sagesse, hein, sur ce qu'est la vie, le regard, ce qui est intéressant, c'est de voir, d'accompagner ce regard qui va, qui essaie de, une sorte, pas d'introspection, je pense pas, mais une espèce de mise en face à face de soi et de son corps, qui essaye de dégager le périmètre de la vie, dégager le périmètre de la vie. D'abord, il y a la vie du monde. Oui, la Bible dit bien que le monde a été, n'est devenu ce qu'il est que à partir du moment où la pluie est tombée. La terre aurait été sèche et serait morte, oui, sans pluie. Alors, de cette allusion biblique, il en arrive à, je disais, l'évaluation du périmètre de la vie, oui. Il n'y a pas simplement ce qu'on pense, hein, et il n'y a pas simplement les photos de sa vie qui font, qui sont les preuves que nous avons vécues ou que nous vivons, mais ou bien les signes, ou bien même l'écriture, mais aussi des choses presque plus dérisoires, si je puis dire, et beaucoup plus fragiles, comme le visage, les cheveux, le sien et celui des autres. Alors on a aussi quelque part une, pour nous qui disons cela en français, une pensée, oui, pour ce que dit Lévinas, Emmanuel Lévinas, du visage.
Oui. Le visage, oui.
Le visage est important. Le visage, oui, est important pour reconnaître l'autre. Son propre visage, son visage, c'est celui qu'on reconnaît dans le visage de notre homme. Hein. Et c'est ainsi que non seulement nous connaissons l'altérité, mais nous arrivons à nous connaître nous-mêmes. Nous connaissons nous-mêmes par l'autre. Bon, c'est vrai que nous avons, oui, des amorces de ce genre de, comment dire, de phénoménologie, puis d'espèce par la description de ces choses-là, par le fait de vivre, hein, c'est pas le fait d'avoir l'expérience, hein. Bon, Jean-Jacques Rousseau a parlé de ça, cette nécessité du regard de l'autre pour exister. La Miron, il ne parle pas simplement d'existence, il parle presque d'ontologie. C'est-à-dire qu'à la source de l'être, hein, il y a pour être vraiment, il y a cette nécessité d'être avec l'autre. Et être avec l'autre, c'est difficile quand on est, si on était réduit à des simples essences, ben, il y a tout, malgré tout, ce qui fait connaître un visage de soi, un homme. Oui, la manière de s'habiller, la manière de vivre, les cheveux. Et c'est un peu ce qu'il écrit, Miron. Comme je me semble avoir dit au départ, il part de ce qui nous semble extérieur, les architectures, les choses telles qu'elles existent, bel et bien aujourd'hui. Il part de ce point d'ancrage vers quelque chose qui est beaucoup plus dissimulé aujourd'hui. Au fond, qu'est-ce que fait la civilisation? Elle, j'ai employé l'exemple de l'architecture de béton. Au fond, elle bétonne la terre, elle couvre la terre. Nous couvrons la terre de signes. Nous couvrons la page de signes, de messages. Et le poète ici essaie de voir ce qui est en amont des signes, ce qui est à la source des signes, non pas pour oublier le présent, pour oublier la vie de maintenant, la vie contemporaine, mais pour distiller quelques mystères qui auraient disparu par le fait de la civilisation, par le fait de la pensée.
Je parlais du visage, il y a une notion aussi importante, c'est la notion de nom, le nom. Il en parle dans ce poème non avec au pluriel, page 9. Si tu veux
Oui,
bien me le
effectivement.
lire.
Le nom, alors bon, on est ici dans une quelque chose qui, sur le plan de la langue hébraïque, en fait, énormément de sens qui viennent s'ajouter, et là aussi, que la traduction ne rend pas. Le nom, c'est également. C'est le nom des choses, hein, c'est le nom des hommes, c'est aussi le nom de Dieu. Hein, c'est-à-dire que Dieu étant dans la tradition ineffable, imprononçable, il est appelé le nom. Le nom. Le nom est. Alors, ce nom-là, nous le savons par mythologie du récit de la création, de ce récit de la Bible. Hein, le nom est lié. Est lié à l'apparition de l'homme, puisque le projet du nom, le projet divin, est celui de créer un monde pour l'homme. Alors, la question qui est posée dans ce poème, est-ce que les noms que nous donnons aux choses sont des noms exacts, sont les vrais noms? Est-ce que le nom que nous donnons à l'autre, à l'homme, est-ce que le nom que nous donnons au transcendant, d'abord, est-ce qu'il a un nom? Et est-ce que c'est un nom? Voilà la raison du pluriel, hein, du titre, nom. Alors là aussi, Miron déconstruit. Alors on va lire le poème, si tu peux bien.
Oui.
On verra comment il se réapproprie oui, la question du nom. Alors c'est page
9.
9. Page 9, donc non. Ce n'est pas toujours qu'on appelle des choses par leur nom exact. Elles ont besoin que d'autres rappellent le nom que l'enfance leur a donné. Des feuilles étalées dans la bouée de la tortue forment à présent les nombreux tapis de la course à pied sur la plage et celui du corps que nul n'embrasse. Long canne à pêche resté à attendre seul le jour d'une autre saison. Sans les voies respiratoires, les poissons qui vont tomber dans le piège, ou les fils invisibles de nouvelles vouées au repos. Laisse les noms en paix et faisons un exercice intéressant, me dit le vieux maître. Car je sais que ma jambe ne se sait plus s'assouplir exactement selon les piles d'emballage. Alors le mot final est assez dur, hein, le mot emballage, hein, qui ce mot s'il voulait décrire, résumer enfin ce que j'appelais le périmètre du corps, hein, un emballage. Alors ici se profile encore de recherche, hein, la problématique de la déconstruction, l'emballage. Hein. Qui cache une boîte, qui cache, hein, on est dans les poupées russes, hein, qui cache un corps, qui cache. Et c'est ce qu'il fait dans ce poème. Alors le point, à travers un petit récit, il y a un élément anecdotique toujours dans le poème de Miron. On pose un problème, une problématique, un thème, et il y a une histoire, il y a des. Comme dans l'anamnèse, comme ce qu'on raconte pour redécouvrir. Le fil de sa vie, on parle d'événements, de fragments de vie qui ont eu lieu. Et là, il parle de l'enfance. Il parle de l'enfant qui, comme tous les enfants, les animaux domestiques, hein, là, c'est les tortues.
Les tortues, oui.
Il parle de la pêche. Hein, la pêche, on imagine l'enfant aller avec son père ou ses parents au bord de la mer ou la rivière et pêcher. Voilà ce qu'on est arrivé. Voilà ce que la vie a réussi à nommer. Voilà ce que la vie a réussi à vivre et à nommer. Est-ce, alors, dernière phrase, c'est la chute, hein. Est-ce le nom exact qu'on peut donner à cela? Maintenant que je suis en aval, hein, si je puis dire, de ces événements, je suis beaucoup plus loin. Ils sont derrière moi. déteste le nom Israël qu'on pouvait donner à ces choses-là. D'où l'injonction, laisse les noms en paix. Laissons-nous en paix, et il y a ici une image qui n'est pas peut-être perceptible en français, c'est l'image de Yogi. Il y a une sorte de yoga qui est fait dans la dernière prof. Faisons un exercice intéressant, on me dit, le vieux maître. Alors, il s'agit d'un maître, quelqu'un, un sage, quelqu'un qui a vécu, qui a bien vécu et qui s'est bien remémoré sa vie, et a bien a décanté l'essentiel. C'est ça, la sagesse du maître. Alors, le poète s'adresse à le vieux, enfin celui qui a vécu, hein, donc le poète narrateur, bon, obéit à la leçon, à l'enseignement du maître, hein, qui lui dit que avec la jambe, notre corps n'obéit pas exactement au pli de l'emballage, hein, que nous avons au cours de notre vie. Bon, et c'est vrai qu'en plus on prend de l'âge, ça devient difficile, hein, le corps ne correspond plus à ce qu'il était. Pour autant qu'il devait être ce qu'il fut. Ici, la notion de... Oui, qui est celle de... Qui est comprise dans la sagesse. Hein. La sagesse, au fond, c'est réapprendre. Hein. C'est savoir un jour que ce qu'on a cru savoir n'était pas un véritable savoir. C'était pas le savoir authentique. Hein.
Alors, le corps qui est un élément important aussi de ce recueil, hein, à jour, le corps apparaît tout en filigrane tout au long de ce recueil. Michel, malheureusement, nous arrivons à la fin de cette émission. Nous devons céder l'antenne. On va rappeler le nom de ce livre, Miron Isaacson, à jour. Gravure de Denis Zimmermann, traduction par Michel et Carilial aux éditions.
Je traduis les gravures, de très belles gravures. Hein. Oui. C'est la première fois que nous mettons des gravures, hein, et sur la couverture et dans le texte, hein, pour l'édition, le tirage des lettres, oui, hein, des gravures uniques de Denis Zimmermann.
Voilà. Aux éditions Le Vent. Alors, on peut les commander directement. D'abord, quel est le prix, pardon, de ce...
Alors, c'est 25 euros, hein, l'édition...
Pardon, je n'ai pas entendu.
25 euros,
25 l'édition euros, cette édition, donc...
L'édition, c'est un tirage de tête de 100 exemplaires, hein, c'est 45, parce que les gravures sont toutes uniques, hein, c'est la raison
du... Niveau d'artiste.
...du surcoût. Oui. Voilà, on peut, bien sûr, les commander directement sur le site, hein, de Vent.
Voilà, le site sur le site Le Vent.
C'est édition.levent.
Édition.levent, L-E-V-A-N-T, bien entendu.
Oui, enfin, ça voilà. Se trouve sur le net. Hein,
voilà. Et nous aurons toutes ces références ainsi qu'un petit récapitulatif de ce qui vient d'être dit. Sur le site Les Poètes attachés sans accent.site. Les Poètes.site, vous pourrez réécouter cette émission et également avoir un aperçu donc des extraits de Miron Isaacson et puis un petit peu l'exégèse de cette œuvre, puisque Miron Isaacson a été aussi un romancier.
Hein, nous parlerons des romanciers, effectivement. Hein,
oui. Les femmes de Nathan, que tu avais traduit, je crois, en 2001. Hein,
j'ai dit sur ta vie. Alors, je redonne, Christian, pour que tu aies l'adresse de Levent. Hein.
Oui.
Édition.levent, tout en minuscule. Édition au pluriel, oui. .levent, @gmail.com.
Voilà.
Donc, c'est l'adresse.
D'accord. Nous reprendrons évidemment ces références dans notre site. Lespoètes.site. Merci beaucoup, Michel.
Avec
donc
plaisir,
à demain, vendredi 17h à l'hôtel d'Assesa. Vous aurez le plaisir, chers auditeurs, d'écouter cette conférence sur la poésie israélienne par notre invité Michel Eckart-Eliel. Merci beaucoup Michel.
Merci
et
à vous
bonne
tous,
soirée.
De faire l'émission, de nous écouter.
Merci, à très bientôt, donc à demain.
Au revoir, à très bientôt, au revoir.